Alors, j'aimerais ce matin vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous partirons du premier verset jusqu'au verset 4. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » En terminant ce merveilleux week-end, j'ai eu à cœur, et je pense vraiment que c'est de la part de Dieu, de parler sur cette béatitude, la seconde, heureux les affligés. Heureux les affligés. J'aborderai cette intervention ce matin en trois sous-points. Mon premier sous-point, j'aimerais essayer de situer ces discours et parler brièvement de l'esprit des béatitudes. Et deuxièmement, je vais essayer de parler de ce que cette béatitude signifie, mais aussi surtout ce qu'elle ne signifie pas. Et je terminerai par une conclusion, puis je lancerai un appel. En essayant de situer cette béatitude et de parler de l'esprit des béatitudes, j'ai voulu en six points nous donner quelques indications. La première indication, c'est que les béatitudes, pour celles et ceux qui étudient la parole de Dieu, nous savons qu'il n'y a que Matthieu ainsi que Luc qui en parlent, les quatre évangiles. Donc seul Matthieu et Luc parlent de béatitude. La deuxième indication aussi importante, c'est que Matthieu place ses discours sur les béatitudes, qui fait partie du sermon sur la montagne, tout au début du ministère de Jésus-Christ. Alors qu'en étudiant et en lisant l'évangile de Luc, Luc les place plus loin, quasiment au milieu. Troisième indication, non de moindre, aussi importante, c'est que Matthieu situe le discours sur les béatitudes, qui lui-même fait partie du grand sermon sur la montagne, juste après le choix des quatre premiers disciples, Pierre, André, Jean et Jacques. Le choix est fait dans Matthieu 4, versets 17 à 22. Mais par contre, Luc le place après les choix de toute l'équipe au complet. Luc au chapitre 6, versets 12 à 16. Quatrième indication, aussi importante, c'est que les deux évangélistes se mettent d'accord pour reconnaître que ces discours avaient été suivis par des milliers. En lisant Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25, la Bible dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques et il les guérissait. » Le verset 25 dit « Et une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. » Et le verset premier du chapitre 5 dit « Voyant la foule ». Dans Luc au chapitre 6, verset 17 à 19, quasiment la même information nous est apportée montrant que ces discours ont été suivis par plusieurs. Il, c'est de Jésus qu'il s'agit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où s'est trouvée une foule de disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et le verset 20 dit, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, et il prononce le discours sur les béatitudes. Cinquième indication aussi importante à retenir, c'est que Matthieu situe ses discours sur une montagne. Matthieu 5, verset 1 que nous avons mentionné. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, alors que Luc les situe apparemment sur un plateau, ou mieux, au niveau d'une plaine, où il semble-t-il Christ a eu simplement à lever les yeux pour mieux communiquer. Luc au chapitre 6, verset 17, il descendit avec, on parle d'une descente, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples. La sixième et dernière indication que j'ai trouvé aussi important de mentionner, c'est que dans l'évangile de Matthieu, les béatitudes sont quasiment au nombre de 8, parce qu'à 8 reprises, Matthieu, reprenant les discours de Jésus-Christ, dit chaque fois « heureux, heureux, heureux ». Mais par contre, quand nous lisons dans Luc, au chapitre 6, versets 20 à 24, il y a comme un petit distinguo. 4 fois, il dit « heureux », mais 4 autres fois, il dit « malheur ». Il y a à la fois d'un côté les bénédictions, mais de l'autre côté, les malédictions. Et j'ai trouvé nécessaire de faire ressortir ces choses. Mais après, j'aimerais dire aussi que les béatitudes ainsi que les sermons sur la montagne font partie de l'un des plus beaux discours. J'ai suivi un jour un documentaire à la télévision et on plaçait les 20 discours les plus révolutionnaires, les 20 discours qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On a parlé du discours d'investiture de Kennedy. On a parlé du fameux I Have a Dream de Martin Luther King. On a même cité les discours de Lumumba. Mais j'étais étonné qu'on n'ait pas marqué les sermons sur la montagne. Parce que j'estime que c'est l'un des plus grands, si pas les plus grands discours que les hommes aient jamais entendus. Quand Christ adresse ses propos, il parle à une foule d'hommes et des femmes marquées par l'occupation romaine. Ils sont en train de subir la colonisation romaine, ils sont écrasés, et ces peuples pleins de promesses se retrouvent à un carrefour de son histoire. Ces peuples avaient un passé riche, un présent pauvre, et un avenir plein d'incertitudes. Et ces peuples étaient à un niveau où peut-être ils n'ont pas cité les mêmes paroles, mais ils vivaient sûrement ce que Gédéon a connu, qui est mentionné dans Juges 6 au verset 13. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, et lui fait savoir qu'il est un vaillant héros et qu'une grande mission est attachée à lui, Gédéon réagit spontanément. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et comme s'il ne croyait plus à ces choses qui ont été dites, les concernant et concernant son peuple, il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Et c'est ce que ce peuple était en train de vivre. Ils avaient une quête, ils avaient une soif, ils avaient une faim, parce qu'ils avaient plein de rêves. Ils avaient faim du bonheur. Et puis là, ils rencontrent, entre guillemets, un discoureur selon eux. Et ces discoureurs ouvre la bouche et il leur parle de quoi? De la chose qui fait l'objet de leur soif, le bonheur. Mais il leur parle d'un bonheur étrange, un bonheur différent de celui du monde. Un bonheur qui tire sa source ailleurs que là où le monde espère le tirer. Pour lui, pour être heureux, d'abord il faut être pauvre en esprit. Pour être heureux, il faut avoir faim et soif de la justice. Pour être heureux, il faut être miséricordieux. Est-ce la conception du bonheur selon le monde? Mais au beau milieu de ces discours déjà difficiles à capter, à saisir, il place une parole étrange. Étrange parce qu'il met côte à côte deux mots qui normalement ne doivent pas être voisins. Il dit heureux, mais les affligés. Y a-t-il un bonheur qui peut venir de l'affliction? Il dit, il y a un bonheur à être affligé. Heureux, les affligés. L'affliction peut-elle être source de bonheur? Luc va plus loin, Luc dit, heureux ceux qui pleurent. D'autres traductions disent, heureux ceux qui portent les deuils. Heureux les endeuillés. Alors, qu'est-ce que cette béatitude signifie réellement? C'est mon second point. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle ne signifie pas? L'affliction dont il est question ici tire sa source dans un mot grec, pontéo. Ces mots qu'on ne retrouve que deux fois dans la parole de Dieu et même dans les évangiles. La seconde fois où on retrouve ces mots, c'est dans Matthieu 9, verset 15, lorsque Christ parle à la foule de Jean-Baptiste, lorsqu'il dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Ces mots veulent parler d'un deuil, fort et permanent et constant. Mais avant que je ne puisse avec vous essayer de comprendre ce que cette parabole, plutôt cette béatitude signifie, l'affliction dont il est question, j'aimerais d'abord essayer de dire ce qu'elle ne signifie pas. Quand Jésus-Christ dit « heureux les affligés », il ne veut pas parler de la douleur causée par un coup. Il ne veut pas parler de la douleur intense que l'on ressent de perdre un être cher, de perdre un parent, un frère, un ami, un mari, une épouse. Certes, il y a beaucoup de douleurs. Mais il ne veut pas dire, parce que vous avez perdu un être cher, le bonheur vous est promis. Deuxièmement, il ne veut pas parler de la douleur de subir une calamité naturelle. Tremblement de terre, éruption volcanique, tempête, vent violent et que sais-je encore. J'ai suivi encore il y a quelques semaines, mon épouse et moi, on était en Amérique du Nord, faisait passer un documentaire et il y a eu ces grandes tempêtes qu'il y a souvent aux États-Unis, Katrina, avec tous les dégâts que ça a causé des milliers de personnes dehors sans abri. Vous pouvez voir la tristesse des gens qui subitement se retrouvent sans maison et peut-être des économies de plusieurs années parties. Affliction, certes, mais c'est pas de cela que Jésus veut parler. Il veut pas dire parce que vous avez perdu un bien, vous avez perdu des choses importantes que le bonheur vous est promis. Il ne veut pas non plus parler de ce que la guerre peut causer comme affliction. La méchanceté des hommes, et quand je parle ainsi, je pense il y a 2 ans, j'étais à l'est de notre pays, je prêchais un dimanche, et quand j'ai fini, j'ai eu à parler avec une première, une deuxième, une troisième personne, et puis on m'a amené une quatrième personne. Il y en avait encore une dizaine qui voulait me parler, puis avec elle seule, j'ai pris quasiment 1h30, une vieille dame de 77 ans. Elle me disait, je suis veuve depuis plus de 15 ans. Elle habitait un petit village à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Elle pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Et je me souviens, 5 minutes après qu'elle ait commencé son exposé, je ne pouvais me contenir, je l'ai accompagnée dans le pleurs. Pourquoi? Parce que les rebelles avaient envahi son territoire. Et des jeunes gens, il a dit, le plus âgé devait avoir, je pense, peut-être 22 ans. Il devait avoir entre 22 et 17 ans. Ils disaient au nombre de 8, ils m'ont tous violé. Des bêtes, permettez-moi les termes, des animaux. Sûrement, dans ces coins reculés, ils ne sont pas en contact. Sûrement, ils ont eu peut-être des désirs naturels et normaux. Mais faut-il les satisfaire au détriment de la destruction d'une vie? J'ai vu l'affliction de cette femme, j'ai vu sa douleur que seul un miracle de la part de Dieu peut effacer. Certes, il y a aussi affliction là, mais c'est pas de ça que Christ veut parler. Quand il dit heureux les affligés, il ne veut pas parler de ce que l'on ressent lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est méprisé. L'affliction que l'on ressent d'apprendre que son mari vous trompe. D'apprendre qu'il a ou qu'elle a une double vie, c'est pas de cela. Il veut pas dire heureux ceux qui ont la tristesse à cause de cela. Lorsque Christ parle du bonheur qui est dans l'affliction, il vise principalement deux choses. La première chose qu'il vise lorsqu'il dit « heureux les affligés », il parle du fait d'être affligé à cause de sa condition. À cause de ce que l'on est dans son fort intérieur. Et à ce niveau, la classification de béatitude n'est pas fortuite. C'est pas en vain qu'il a commencé par dire « heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont conscience que spirituellement ils sont en manque ». Et directement après ce manque, il vient dire « heureux les affligés ». Heureux ceux qui ont pris conscience de leur pauvreté spirituelle. Et cette pauvreté spirituelle amène à l'affliction. Ils portent deuil. Deuil à cause de ce qu'ils découvrent qu'ils sont et qu'ils n'auraient plus voulu être. Affligés à cause de ce qu'ils n'aimeraient pas faire mais qu'ils découvrent qu'ils font encore. Affligés à cause de cette identité intérieure sale que l'extérieur ne voit pas, mais qui n'est pas moins présente. Souvenez-vous, vendredi soir, parlant en ces lieux, je disais, citant mon pasteur et à Nairobi, qui disait que chacun des Noirs, quatre identités, les moins officielles, qui est sophistiqué, travaillé, et puis il y a les moins privés auxquels petit nombre ont accès, mais il y a surtout les moi réels. Et ceux qui sont affligés, ils se voilent pas la face devant leur moi réel. Moi réel, comme je dis, auquel seul Dieu et eux ont accès. Ils se disent, malheur à moi. Heureux les affligés. Et je prie que ces gens d'affligés puissent y en avoir ce matin. S'il y en a, alors je pourrais vous dire, vous serez éligibles à ce bonheur promis par Christ. Heureux ceux qui portent les deuils à cause du vieil homme qui semble les ramener vers le bas. Le vieil homme qui combat la nouvelle créature qui est en nous et qui nous fait encore faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Heureux cet homme, cette femme qui sert le Seigneur, mais qui pleure encore, comment je puis encore être jaloux? Une jalousie qu'on ne sait pas voir. Une jalousie qui vous fait souffrir quand l'autre est plus apprécié que vous. Quand l'autre chante, l'autre prêche, l'autre exhorte, on ne parle que de lui. J'ai entendu une jeune fille qui est venue me voir un jour, je prêchais à l'est de notre pays. Elle est venue me voir au bureau et elles sont nées à deux, elle s'est mise à pleurer du pasteur. Prie pour que les monstres qui sont en moi et que les gens ne voient pas, non seulement sortent, mais meurent. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, pasteur, nous sommes nés à deux. J'ai 22 ans et ma jeune sœur a 20 ans. Et dès l'instant, on a commencé à grandir. Tant que je suis seul, les gens m'apprécient un peu. Mais dès qu'elle se pointe à mes côtés, tous les compliments vont chez elle et moi je fais partie du décor. Il dit même quand on était tout jeune, quand un garçon s'intéressait à moi, dès que ce garçon arrive à la maison, il m'oubliait au détriment de ma sœur. Pasteur, je ne le dis pas à haute voix, je rigole avec elle. On s'appelle ma copine, des fois même on coupe, non pas ma copine, ma copa. Mais au fond de moi, j'ai dit souvent, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où elle va mourir. Où elle va disparaître. Nous n'avons aucune idée des choses qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Il y a quelque temps, elle était très malade. Je l'aime, c'est ma sœur, mais je disais, si elle partait, au moins, je peux exister. Heureux de tels affligés. Heureux les affligés, comme j'ai vu il y a 18 ans, Nous étions à une réunion un samedi soir des responsables de la jeunesse et je faisais partie de ces responsables. Et au beau milieu de ce moment de prière, la gloire de Dieu est tombée. J'oublierai jamais cette scène. Deux amis qui dirigeaient une cellule de notre église. L'un est allé vers l'autre. Il a tenu, il a commencé à pleurer et dit, prie pour moi. Je travaille avec toi depuis 3 ans. Mais je t'aime pas. Je te supporte pas. Chaque fois que tu prêches, je pars à gauche et à droite critiquer ta prédication. Je souffre quand toi tu as prêché, tout le monde est du bien. De telles choses ne peuvent se passer que quand la gloire de Dieu tombe. Dieu merci, il n'enlève pas les masques que nous portons. Et Jésus dit, heureux les affligés, heureux de telles personnes qui peuvent dire, Seigneur, tue ce monstre qui est en moi. Heureux cette personne qui vient à l'église, qui aime le Seigneur, mais esclave encore du mensonge. Qui dit, Seigneur, je veux pas mentir. Heureux ceux qui ont conscience de cette colère qui les tient, qui quelquefois se mettent à genoux, se mettent à se haïr. Pourquoi suis-je toujours autant colérique? Pourquoi ai-je des mots durs? Heureux ceux qui sont affligés à cause de leur orgueil, qui fait qu'ils ne puissent pas supporter les remarques. Jésus dit, ceux qui pleurent à cause de cet homme intérieur vilain, permettez-moi les termes, que les gens ne voient pas, il y a un bonheur qui les attend. Heureux veut-il dire encore ceux qui se battent contre les vieils hommes et qui les prennent en dégoût. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de ce jeune homme, né de nouveau 3 mois, marchant dans la victoire du Seigneur. Et depuis le 4e mois, le pasteur dit, es-tu prêt à passer par les eaux du baptême? Il dit oui. Et puis on l'amène dans les eaux du baptême quand on les fait descendre dans les eaux, on les fait ressortir avant de partir. Il dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Le vieil homme, il est resté là, tout bas, dans cette eau. Là. Le pasteur le retrouve un mois après. Il dit, alors comment ça va? Et le vieil homme, il dit, il est toujours dans l'eau. Et j'ai difficile à croire qu'il pourra ressortir. 6 mois après, le pasteur le retrouve, il avait des traits allongés, l'air triste. Le pasteur dit, mais la joie du Seigneur, où elle est? Oh, dit pasteur, je savais pas que le vieil homme savait nager. Le vieil homme l'a retrouvé. Mais le pasteur était content au moins parce qu'il était affligé à cause de cela. Il était triste et je pensais l'avoir vaincu. Je pensais ne plus avoir affaire à lui. Mais il est ressorti, il s'accroche encore à moi. Et Christ dit, de telles personnes sont peut-être fautives, mais il y a un bonheur qui les attend. Heureux les affligés. J'aimerais m'arrêter un moment pour vous poser, me poser, nous poser la question. Nous arrive-t-il encore, comme l'apôtre Paul dit, de nous juger nous-mêmes? Paul dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez plus jugé. Il y a des jours, nous avons mentionné ici Luc 15, verset 16 au verset 19, quand la Bible est parlant de ce jeune homme qui a fauté, qui a demandé sa part d'héritage et qui a dilapidé tous les biens. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même. Un exercice que nous n'aimons pas beaucoup. Regarder devant un miroir. Dans Luc chapitre 21, verset 61 à 62, un homme a eu la possibilité de rentrer en lui-même. Pierre, il s'appelait, trop sûr de lui. Seigneur, même si tout ceci t'abandonne, moi je ne pourrais t'abandonner. Jésus-Christ dit, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras régné 3 fois. Il dit, non. Et puis le voilà, non seulement qu'il a régné les maîtres, mais il est arrivé même à faire des imprécations. Et la Bible dit, quand le coq chanta, le Seigneur se retourna et les regarda. J'ai pris que le regard perçant du Seigneur touche quelqu'un ce matin. Et la Bible dit, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que les coqs chantent aujourd'hui, tu me régneras trois fois. Et j'aime les versets 62. Un exercice de moins en moins présent dans la maison de Dieu. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il fit les deuils. Je suis un bon à rien. Je revois encore ce serviteur de Dieu qui vient me voir. Il y a 8 ans au bureau, un homme apprécié dans notre ville. Avant de me parler, il tremblait de tout son corps. Il dit, pasteur, si tout le monde connaissait le vrai moi, je n'aurais pas ce respect que je mérite. Il dit, pasteur, j'ai 3 problèmes. Je suis accro à la pornographie. Très accro. Je sers le Seigneur et même je prêche contre ça. Mais je suis pas moins esclave. Il dit, mes victoires ainsi que mes défaites dans ces domaines sont cycliques. Moi-même, j'ai dit, l'homme de Dieu que je suis, je dois plus regarder ça. Et puis il dit, ça dure 2 semaines, 3 semaines. Il dit, un beau jour, il dit, sans savoir comment, je tape encore www.sex.com. Et il m'a fait une confidence qui souvent me fait rire. Me regardant dans les yeux, il dit, pasteur, on n'ose jamais devenir un habitué du péché. Parce que quand tu deviens un habitué du péché, tu vivras ces instants où c'est le seul moment où le diable devient l'avocat de Dieu. Il me dit, il y a une fois, je venais encore de regarder ces choses et je me sentais sale. Il dit, je voulais me mettre à genoux, demander pardon à Dieu. J'ai entendu distinctement le diable me dire, toi vraiment tu blagues avec Dieu, hein? Tu t'amuses et tu fais n'importe quoi. Le seul moment où le diable devient l'avocat de Dieu, c'est quand on commence à s'amuser avec le péché. Ma prière et les vœux de mon cœur est que Dieu nous aide à savoir nous arrêter. Qui nous sommes, et ce jeune homme, comme la Bible dit, misérable, il s'est retrouvé. Cet homme ajoute une deuxième des choses et dit, pasteur, je suis marié depuis 12 ans. J'ai la jeune sœur à mon épouse que nous avons pris à la maison. Elle avait à l'époque 16, 17 ans, elle en a aujourd'hui 20, 21. Je sens une attraction bizarre vis-à-vis d'elle. Dit 2, 3 fois, je suis allé la regarder et je l'ai même touchée. Je me disais, l'homme de Dieu que je suis, je ne dois pas le faire. Il dit une fois, même en surprise, elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai présenté une fausse excuse. Et la troisième a failli me faire tomber à genoux. Il m'a dit, je fréquente les prostituées. Il dit, il y a des moments où j'ai une femme, j'ai une vie avec elle, mais j'arrive pas à savoir, il y a quelque chose. Plusieurs fois, j'ai pleuré, j'ai dit, je veux pas faire ça. Je me retiens 3 mois, 6 mois, et puis, je retombe encore. Il dit, le comble, c'est que ces prostituées vers lesquelles je vais, certaines savent que je suis pasteur. Il dit, il y a 3 semaines, je suis allé sur le boulevard la nuit et j'en ai vu 3 et chacune s'est disputée. Ça, c'est mon client préféré. Mais il dit, la journée, les gens me voient et disent, l'homme de Dieu. Je l'encourageais pas dans cette faiblesse. Mais j'étais au moins content que quelqu'un fasse tomber les masques. Et Jésus dit, heureux de telle personne. Heureux ces hommes qui, comme l'homme de Romains chapitre 7 verset 19 à 24, peuvent sincèrement s'écrier, je ne fais pas les biens que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Mais j'aime surtout le verset 24, quand c'est pas l'extérieur, c'est lui-même qui crie « Misérable que je suis !» Et Christ dit, il y a un bonheur pour de telles personnes qui sent que l'extérieur, les juges eux-mêmes peuvent dire « Je suis misérable !» Je suis un pauvre type. La version française courante dit malheureux que je suis. Il y a espoir de bonheur de telles personnes. Psaume 51, verset 10 à 14. David ne cache pas son affliction. Il a fauté, il a pris la femme d'autrui. Et puis même il a fait tuer son mari. Et quand Nathan vient lui faire découvrir son péché, on sent le poids de la culpabilité. Écoutez ces paroles, annonce-moi l'allégresse. Et la joie ainsi que les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit saint. Au verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dieu aime ces instants où ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10, la tristesse selon Dieu nous envahit. Écoutez ce que Paul dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Et il ajoute, car votre tristesse a été selon Dieu. Wow! Selon Dieu. La version française courante dit, cette tristesse était telle que Dieu l'a voulu. Il y a des tristesses voulues par Dieu, encouragées par lui. Vous avez été attristé selon Dieu. Et j'aime ce qu'il dit au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une tristesse à salut dont on ne se répand jamais. Vous arrive-t-il encore de vous attrister sur votre sort? Peut-être que vous êtes trop parfait. Moi, je ne le suis pas. Vous arrive-t-il encore de vous arrêter, de vous regarder sans complaisance? L'un de mes aînés m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Il a dit, l'une des races a beaucoup aimé dans l'église, ce sont les nouveaux convertis. Il disait, les nouveaux convertis connaissent peu, mais ils vivent beaucoup. Ils vivent le peu qu'ils connaissent. Et les vieux convertis, ils connaissent beaucoup. Et ils vivent peu. J'ai jamais oublié cette scène, jamais oublié l'année 90, ça faisait 5 ans que je m'étais converti. Et puis on était en retraite, il y a un moment de témoignage qui devait passer, c'était aux alentours de 11h, on avait chaque fois une séance qui allait de 8h à 10h, puis il y avait une pause à 10h, on prenait 10h30 à 12h30, et là, lors de la séance de 10h30 à 12h30, un jeune frère est venu témoigner durant 5-7 minutes aux alentours de 11h. Merveilleux témoignage qui nous a tous fait fondre en larmes. Et puis il a fini, il est allé se rasseoir. La réunion a continué normalement. Je pense 5 minutes avant 12h30, j'ai regardé, il pleurait encore, j'ai dit. Et je voyais, il parlait avec notre responsable. Et puis c'était la pause entre 12h30 et 15h, 3h de l'après-midi. Nous, on s'est retrouvés, partagé notre repas. Je l'ai vu dans un coin, pleurant et pleurant encore. On s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Et vers 15h, quand on est retourné pour la deuxième et avant-dernière partie de la retraite, en général, on commençait toujours par un temps de louange et d'adoration, mais c'est cet après-midi-là, notre responsable a dit, non, on commence pas par la louange et l'adoration, le frère veut dire un mot. Et il est passé, j'oublierai jamais. Il a dit, frères et sœurs, j'aimerais vous demander pardon. Parce que dans mon témoignage, de cette partie jusqu'à cette partie, tout était vrai. Et là, j'ai glissé un mensonge, peut-être pour faire bien. Mais dès l'instant où je suis allé me rasseoir, ma conscience a commencé à me déranger. Et je me disais, je ne peux retrouver la paix que si je replace la vérité là où j'avais placé le mensonge. J'étais quasiment à l'avant-dernière rangée. J'ai entendu deux amis, vieux convertis, qui étaient derrière moi. Ils ont fait deux remarques. La première m'a fait mal, la deuxième m'a attristé. La première remarque, et écoutez ce que l'un a dit à l'autre. Ça, c'est les ailes des nouveaux convertis, ça. Mais la deuxième m'a attristé. Écoutez, la deuxième remarque, je l'ai entendue distinctement. Après plus de 20 ans, j'ai jamais oublié. Il dit, le temps fera de lui ce que nous sommes devenus. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous sommes devenus de ceux qui mentent et qui ne sentent plus la conscience qui nous dérange. Seigneur, aide-moi à ne jamais devenir comme ça. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et c'est merveilleux de temps en temps d'avoir ces regards intérieurs sans que quelqu'un nous dise de l'extérieur. Dans 1 Roi chapitre 19 au verset 4, les super-héros, Élie, qui a connu de grandes victoires et qui s'écrit le meilleur en Israël et en Juda, quand il a fui, il s'arrête lui-même et dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Que c'est merveilleux quand on peut s'arrêter et se juger sans complaisance. Et pour de telles personnes, Jésus dit, heureux. Heureux ceux qui pleurent en disant, Seigneur, je manque de sagesse. Je ne sais pas quand je dois me taire, je ne sais pas quand je dois parler. Seigneur, rends-moi capable de ne pas vivre certaines choses que ta parole réprouve. Mais deuxième chose qui est cachée derrière cette béatitude quand Christ dit, heureux les affligés, Jésus-Christ veut parler aussi des hommes et des femmes qui ont les yeux ouverts comme Dieu et qui voient la misère spirituelle et morale de ce monde qui nous entoure. De ce monde qui, comme un bateau ivre, va vers la dérive et qui va vers un point où il va faire naufrage, qui est d'indifférence dans le cœur des supposés croyants. Qui n'ont Dieu que sur eux-mêmes, sur leurs besoins, mais ils voient pas le monde comme le maître, notre maître le voyait. Dans Matthieu chapitre 9 verset 36, alors que des foules s'avancent vers lui, la Bible dit, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils étaient bien habillés, ils rigolaient, mais Christ voyait la faim et la soif, les grands besoins spirituels. La Bible nous donne des exemples des personnes affligées, non pas pour elles-mêmes, mais à cause d'autres personnes. Dans Psaume 119 au verset 136, écoutez ce que le psalmiste dit, « Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. » Ce sont d'autres qui n'observent point ta loi, mais le deuil c'est moi qui les porte. Des torrents d'eau. Dans Psaume 119, verset 158 encore, le psalmiste dit, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. La version française courante dit, je suis écœuré en voyant des renégats, des gens qui n'observent pas tes instructions. La version La Colombe va plus loin. Il dit, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ce que tu as dit. Venant un peu dans mon pays, et surtout dans notre ville de Kinshasa. Il y a des choses que j'entends, que je vois, que les supposés hommes de Dieu font. Ça m'attriste. Il y a certains endroits, j'ai difficile à me présenter comme pasteur et pasteur congolais. À cause de tout ce que cela signifie. Ça me fait pleurer. Y a-t-il encore des personnes qui, comme Lot, de Pierre chapitre 2 verset 7 à 8, Écoutez ce que la Bible dit de Lot. Lot, le juste, était profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution. Wow. Écoutez ce que le verset 8 ajoute. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Il voyait le dérèglement. Il voyait des gens, c'est comme si on enlevait quelque chose. Et comme je disais, notre monde est comme un bateau ivre. J'ai toujours prié, Seigneur, aide-moi à ne pas m'habituer à l'inacceptable. Quelqu'un dit, à force d'habiter à côté de quelques fausses sceptiques, cette odeur nauséabonde peut se transformer en parfum. Vous êtes tellement habitué, c'est seulement la personne qui vient. Mais comment vous faites pour supporter? Bon, vous avez toujours été là et l'habitude fait que vos narines ne sentent plus le côté mauvais. J'ai été secoué dans ma foi il y a plus de 25 ans. Quand la première fois, mon pasteur a prêché sur Actes 17, 16. Et ce jour-là, il a prêché, je pense, les trois quarts de son message. Il pleurait. Les larmes perlaient de ses yeux. Il avait toujours l'habitude de pleurer. On l'appelait même les prédicateurs qui pleurent chaque entrée vers là. Paul arrive à Athènes. Et lorsqu'il arrive à Athènes, quelque chose se passe. Écoutez ce que la Bible dit. Alors qu'il les attendait. Alors qu'il attendait ses amis qui étaient à Athènes, quelque chose se passe. La Bible, parlant de l'apôtre Paul, dit ceci. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Les termes irritation dont il est question ici seraient mieux traduits par exaspération. Du reste, la version française courant les traduit encore mieux. Il était profondément indigné. Indigné de voir cette idolâtrie, de voir ces gens qui ont réellement soif, mais qui vont boire à la mauvaise source. La version parole de vie dit, il était profondément triste de voir ça. La version Torbe, traduction œcuménique de la Bible dit, il avait l'âme bouleversée. Êtes-vous encore bouleversé par des choses? Et la Colombe dit, il était exaspéré. C'est-à-dire, il ressentait une douleur morale intense. Ah, je dis pas que ça doit être notre style de vie, on doit être pleurnichard tout le temps pour les autres. Et combien quelquefois c'est bon de porter les fardeaux. Et Dieu m'a mis à cœur, je pense tout à l'heure à la fin, on va faire cet exercice. Je suis allé un jour à la chaîne de prière chez nous. À Kinshasa, et j'y trouvais un jeune homme et... C'était en 90. J'allais chaque lundi de 18h à 20h prier à la chaîne de prière. J'arrivais, j'ai trouvé ces jeunes hommes, mais j'ai quitté, je les trouvais toujours. Et je les voyais chaque fois, il priait, ça coulait des yeux, ça coulait de la vie. Je me demandais, mais a-t-il un problème? Je pense après 6-7 séances un jour, je termine ma prière à 20h, je dis, je vais l'attendre vers 20h45, il sort. Je dis, je ne sais pas depuis combien de temps tu viens ici, mais je te vois toujours à la chaîne de prière. As-tu un problème? Il a dit oui et non. Je dis bizarre comme réponse. Il dit oui et j'ai un problème parce que je porte un fardeau. J'habite la cité, Bandalungwa, pour ceux qui connaissent notre capitale. Et juste à côté de chez nous, il y a une école de sourds-muets. Ils sont plus de 200. Je le vois dans cette condition, mais je le vois aussi mauvais. Et chaque fois quand je passe, je dis, puis-je apprendre leur langage et leur apporter l'évangile? Je prie chaque fois que tous ne soient pas perdus. Il dit, j'ai demandé une fois, deux fois, à la dame qui est la directrice si je pouvais aller prêcher. Elle m'a dit que c'était pas possible. Elle devait avoir des autorisations. Et puis, il m'a dit, c'est ce qui fait ma souffrance. Et j'ai un problème, Mais c'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Et puis je lui ai demandé, tu connais la directrice? Elle a cité les noms, c'est une maman qui priait chez moi, qui maintenant n'est pas très loin ici à Bruxelles. Au lieu de sortir, je suis retourné avec lui à la chaîne de prière et nous avons encore prié 30 minutes. Mon pasteur disait, les larmes que l'on verse pour soi-même sont des larmes de pitié, mais les larmes que l'on verse pour les autres sont des larmes de compassion. Y a-t-il encore des larmes de compassion? Et j'oublierai jamais, mercredi soir, à la fin de la réunion d'études bibliques chez nous, j'ai amené ce jeune homme vers cette maman. J'ai dit, maman, je connais ce jeune homme, voilà comment je l'ai découvert. Et il a un fardeau, peux-tu permettre que nous puissions venir à l'école, partager la parole de Dieu. M'a regardé, il me portait beaucoup à cœur, enfin, j'allais dire à l'époque, parce qu'après, ça a beaucoup changé. Elle a dit, alors, on le fait mardi de la semaine prochaine. Et lundi, ce jeune homme et moi, on s'est retrouvés prier. Et j'oublierai jamais ce mardi, à 7h, 30 minutes avant que ces jeunes gens rentrent en classe. On m'a donné la possibilité de prêcher la parole de Dieu. J'étais plus jeune, encore un peu plus de cheveux à l'époque. Avant que je ne connaisse cette érosion sur ma tête. Et j'ai prêché la parole de Dieu et quelqu'un traduisait en signe. J'ai prêché, je pense, 18 minutes. J'ai jamais oublié. Même quand j'aurai 100 ans, cette image ne partira jamais de ma vie. 5 minutes après, je pense, les 3/4 d'entre eux étaient en train de pleurer. Je disais, il y a la puissance, même dans les signes. Et à la fin, quand j'ai lancé l'appel, au moins, je me souviens encore, au moins 100 à 120 se sont avancés, pleurant. Certains, la douleur était tellement forte qu'on devait attendre que des onomatopées. Je sentais que Dieu était en train de travailler. Et j'oublierai jamais. Je me suis retourné, j'ai regardé le visage de ces jeunes hommes. C'était un visage double, perlé de larmes, avec un sourire. Et j'ai compris ce que cela voulait dire. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je pouvais voir la consolation, la joie. Et c'est là où j'aimerais conclure. Jésus dit, non seulement heureux les affligés, mais il dit heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Le terme consolé ici va au-delà du simple réconfort moral. Il cache l'idée du salut. Il cache l'idée de partager ou bénéficier d'un salut. Dans Ésaïe chapitre 61, versets 2 à 3, parlant de la mission future du Messie, Ésaïe le prophète dira, « Il viendra consoler les affligés, accorder aux affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Le deuil, la tristesse et l'abattement provoqué par le fait de voir sa condition de pécheur, va laisser la place à la joie lorsque Christ reviendra et nous obtiendrons notre victoire. Mais cette joie qui s'accompagne de la consolation vient déjà quand nous sommes pardonnés. Le psalmiste ne dit-il pas dans Psaume 42, la lecture elle est assez longue, mais je préfère la faire. Et à cet heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il y a un bonheur certain à être affligé, mais surtout un bonheur à recevoir la consolation. Écoutez ce qu'il ajoute. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. J'ai gémissé toute la journée. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie en temps convenable. Il ajoute au verset 7, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de tes champs de délivrance. Ceux qui portent le deuil à cause de leur entourage connaîtront la consolation de deux manières. Premièrement, les jours où ils verront ces pécheurs changer. Psaume 126, verset 5 à 6 dit, ceux qui sèment avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Je fais partie d'une famille de 5 enfants. Ma mère a été la première à venir au Seigneur en 76. J'ai été le second à venir au Seigneur en 85. Et j'étais heureux, j'ai essayé d'apporter l'évangile aux miens, et puis voilà, la plupart résistaient, j'oublierai jamais. 5 mois après ma conversion, le pasteur Vernon a prêché un message sur l'au-delà. Et il a parlé de cet endroit, il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs. Et ce jour-là, alors que j'étais assis au fond, j'ai commencé à penser que ma grande sœur qui vient avant moi, Marie-Jeanne, était perdue. Mon jeune frère qui vient après moi, Rémi, était perdu. Notre avant-dernier, Dieudonné, que j'aimais, était perdu. Surtout notre cadet, Christophe, était perdu. Et assis là au fond, les cultes étaient finis à 10h, je suis resté quasiment jusqu'à 13h. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si quand tu vas enlever ton église ou quand nous serons au ciel, s'ils n'auront pas des mémoires. S'ils n'auront pas des mémoires, alors je ne verserai plus de larmes. Mais si jamais nous aurons une mémoire, si je suis le seul à être sauvé et que je peux penser que Marie-Jeanne est en enfer, Rémi est en enfer, Dieudonné en enfer, Christophe en enfer, ah, Seigneur, si tu dis qu'il n'y aura plus de larmes, alors c'est sûr que moi, je vais les inaugurer. Et j'ai pris la décision, j'oublierai jamais, début 87, de commencer chaque semaine à mettre des repas d'un côté, un jour de la semaine, et j'ai prié pour le mien. 6 mois après, mon jeune frère est venu au Seigneur, il est pasteur aussi aujourd'hui. Ils avaient chaque fois un cycle quasiment de 6 mois. 6 mois après, c'est le cadet qui est venu au Seigneur. L'avant-dernier a résisté un peu. Lui est venu plus tard, quasiment 7 ans après, parce que nous étions convertis et lui nous dérangeait avec la musique païenne. Ma grande sœur est venue quasiment 8 ans après. Et quasiment plus de 14-15 ans après, mon père est venu au Seigneur. L'affliction de l'époque, mes larmes de l'époque, ont laissé la place à la joie. Quel bonheur quand je descends chez mes parents, et j'appelle mon père, frère Henri. Quelle joie. J'ai plus la tristesse que j'avais ce jour-là au fond de l'église. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux aussi les affligés, au jour où nous quitterons cette terre. En terminant, j'aimerais dire une chose importante. Le bonheur selon Christ et selon cette béatitude n'est pas attaché à l'affliction. Mais le bonheur est attaché à ce qu'on va recevoir comme récompense. Heureux, les affligés, mais ils seront heureux parce qu'ils seront consolés. Le bonheur est attaché à la consolation. J'aimerais nous dire, les jours de consolation arrivent. J'aimerais ce matin nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais que les musiciens reviennent, ils vont simplement m'aider à chanter encore ces cantiques. Attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner à restaurer notre amitié. J'aurais voulu lancer un appel. Je sens dans mon cœur, ça vaut pas la peine de mettre quelqu'un dans l'embarras. Il est possible que tu répondes à l'appel de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin à lui de cette parole veut dire? Il y a des choses en moi qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des choses que j'aurais pas dû continuer à faire en tant qu'enfant de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, déracine en moi ces mensonges. Déracine en moi cette colère. Déracine en moi cette jalousie que les gens ne voient pas. Déracine en moi cet orgueil. Déracine en moi cette faiblesse. Les gens me voient un géant spirituel. Et moi seul ai accès au vrai moi. alors qu'on lui a vanté un jour un homme de Dieu pour ses qualités, sa probité morale. J'ai jamais oublié, je l'ai retrouvé en train de prier, il dit, Seigneur, aide-moi à devenir celui que l'on croit que je suis parce que je ne le suis pas. Mais j'avais à cœur en terminant parce que Dieu me l'a mis à cœur. Hier matin, alors que vous étiez en dévotion ici, moi je suis resté dans la chambre, j'ai prié pour cette ville. J'ai dit, Seigneur, j'ai jamais entendu parler de cette ville. C'est il y a une année que Carlos m'en a parlé. J'ai appris à la porter dans la prière à faire mention d'elle et c'est tellement clair dans mon esprit. J'ai vu deux images claires. J'ai vu une case comme chez nous en Afrique. Et puis les gens rentraient tellement qu'on a dû casser cette case et l'agrandir. Et deuxièmement, j'ai vu une étoile. Venant de l'Orient, c'était tellement clair. Et cette étoile est venue tomber sur cette deuxième case agrandie. Et cette case est devenue un grand bâtiment. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela voulait dire? Dieu me dit, Roland, tu vas peut-être ce dimanche soir quitter cette église, mais tu reviendras dans quelques temps. Cette petite case deviendra plus grande. Dieu me dit, cette œuvre connaîtra un accroissement. Mais la deuxième chose, claire, j'ai hésité à la dire, mais il m'a dit, dis-le. Cette étoile que tu as vue venir de l'Orient, il a dit, j'enverrai quelqu'un qui viendra de l'Asie. Est-ce un Asiatique? Est-ce simplement quelqu'un, peu de couleur noire, peut-être, je ne sais pas moi de quelle race, mais qui aura vécu des choses en Asie? Et Dieu me dit, il viendra et vous donnera la main d'association et il apportera un plus. Dans combien de temps, je ne sais pas. Et Dieu m'a dit de vous dire, à quittant ces lieux, ne méprisez pas les jours de faible commencement. C'était tellement clair dans mon esprit, ce petit grain de sénévé deviendra un grand baobab. Et je disais hier matin au Seigneur, Seigneur, donne-moi suffisamment d'années à vivre pour que je revienne dans cette même contrée. Et qu'avec les bien-aimés qui sont là et peut-être d'autres qui vont s'émouvoir, partir à gauche et à droite et des nouveaux qui vont venir et qu'on se regarde dans les yeux, qu'on dise, vous avez vu ce que Dieu a fait? Et Dieu m'a dit d'encourager les pionniers. Zor, Christian, Carlos, Francis, tenez bon. Dieu m'a dit de vous donner ces paroles que Christ a adressées à son église, à ses disciples plutôt, j'allais dire. Il leur a dit, en ceci, ce que le prophète a dit est vrai. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Le travail des pionniers n'est pas toujours un travail facile. Il arrive des fois, Dieu laisse que les pionniers souffrent pour ceux qui vont venir après. Dieu me dit, dans des années viennent où des gens viendront moissonner vos efforts. Ils trouveront une église glorieuse, ayant beaucoup de facilité, mais qui n'oublie pas les ouvriers de la première heure. Tirez-moi à toi. Il y a un vieux cantique d'autrefois qui monte dans mon cœur. Un vieux cantique d'autrefois. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. J'ai besoin de toi.
Esprit, prends soin de moi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de lui ce matin? Tu le sais. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment? Qui es-tu et qui suis-je? Garde-moi. Ô Seigneur. Oui, prends soin de moi.
J'ai besoin de toi.
Oui, de toi.
Seul, je ne suis rien.
Tu le sais. Alors que les instruments continuent à jouer, je voudrais qu'on se tienne la main dans la main. Je sois dans mon cœur pour les 5 dernières minutes qui restent. Nous allons prier pour un vent de réveil dans cette contrée. Nous allons demander au Seigneur, donnez-nous des âmes par centaines, donnez-nous par milliers, que le vent du réveil souffle en ces lieux. Élevons nos voix, prions pour cette contrée. Merci d'avoir amené cette œuvre en ces temps comme ceci. Nous avons besoin de toi. Que trois prières s'élèvent l'une après l'autre. Remercier Dieu pour ces merveilleux week-ends. Moi, la fois aussi demander au Seigneur des âmes pour cette contrée. Que trois prières s'élèvent l'une après l'autre. Après quoi, comme quatrième prière, je me demande au frère Sor, il va venir, il va prier pour bénir Dieu.